Marguerite de Bourgogne, reine de Navarre.
Pendant ce temps, Philippe d'Aunay était arrivé à l'hôtel de Nesle. On l'avait prié d'attendre dans l'antichambre des appartements de la reine de Navarre. Les minutes n'en finissaient plus. Philippe se demandait si Marguerite était retenue par des importuns ou si, simplement, elle prenait plaisir à le laisser languir. Elle avait des tours de cette manière. Et peut-être, au bout d'une heure, à piétiner, s'asseoir, se relever, s'entendrait-il dire qu'elle n'était pas visible? Il enrageait. Voilà quelque 4 années, dans le début de leur liaison, elle n'eût pas agi de la sorte. Ou peut-être si, il ne se souvenait plus. Tout à l'émerveillement d'une aventure commençante où la vanité avait autant de part que l'amour, il eût alors fait volontiers le pied de grue 5 heures de rang pour seulement apercevoir sa maîtresse, lui effleurer les doigts ou recevoir d'elle, d'un mot chuchoté, la promesse d'un autre rendez-vous. Les temps avaient changé. Les difficultés qui font la saveur d'un amour naissant deviennent intolérables à un amour de 4 ans. Et souvent la passion meurt de ce qui l'a fait naître. La perpétuelle incertitude des rencontres, les entrevues décommandées, les obligations de la cour, à quoi s'ajoutaient les étrangetés du caractère de Marguerite, avaient poussé Philippe à un sentiment exaspéré qui ne s'exprimait plus guère que par la revendication et la colère. Marguerite paraissait mieux prendre les choses. Elle savourait le double plaisir de tromper son mari et d'irriter son amant. Elle était de ces femmes qui ne trouvent de renouvellement dans le désir qu'au spectacle des souffrances qu'elles infligent, jusqu'à ce que ce spectacle même leur devienne lassant. Il ne se passait pas de jour que Philippe ne se dit qu'un grand amour n'avait pas d'accomplissement dans l'adultère, et qu'il ne se jurât de rompre un lien devenu si blessant. Mais il était faible, il était lâche, il était pris. Pareil au joueur qui s'enferre en courant après sa mise, il courait après ses rêves de naguère, ses vains présents, son temps dilapidé, son bonheur enfui. Il n'avait pas le courage de se lever de la table en disant « j'ai assez perdu ». Et il était là, tout morfondu de dépit et de chagrin, à attendre qu'on voulût bien lui dire d'entrer. Pour distraire son impatience, il s'assit sur un banc de pierre dans l'embrasure d'une fenêtre et regarda le mouvement des palefreniers qui sortaient les chevaux de selle pour aller les détendre sur le petit pré au clair, l'entrée des portefaix chargés des quartiers de viande et de ballots de légumes. L'hôtel de Nesle se composait de 2 monuments accolés, mais distincts, d'une part l'hôtel, proprement dit, qui était de construction récente, et d'autre part la tour, antérieure d'un bon siècle, qui appartenait au système des remparts de Philippe Auguste. Philippe le Bel avait acquis l'ensemble, 6 ans plus tôt, du comte Amaury de Nesle, pour le donner comme résidence au roi de Navarre, son fils aîné. La tour, dans le passé, n'avait guère servi que de corps de garde ou de resserre. C'était Marguerite qui, récemment, avait décidé d'y faire installer des pièces de séjour afin, prétendait-elle, de s'y retirer et d'y méditer sur ses livres d'heures. Elle affirmait avoir besoin de solitude. Comme elle était réputée de caractère fantasque, Louis de Navarre ne s'en était pas étonné. En fait, elle n'avait décidé de cet aménagement que pour pouvoir recevoir plus aisément le beau d'Aunay. Ce dernier en avait conçu une inégalable fierté. Une reine, pour lui, avait transformé une forteresse en chambre d'amour. Puis, quand son frère aîné Gauthier était devenu l'amant de Blanche, la tour avait également servi d'asile au nouveau couple. Le prétexte était aisé. Blanche venait rendre visite à sa cousine et belle-sœur, et Marguerite ne demandait qu'à être tout à la fois complaisante et complice. Mais maintenant, lorsque Philippe regardait le grand édifice sombre, aux toits crénelés, aux étroites et rares ouvertures en hauteur, il ne pouvait s'empêcher de se demander si d'autres hommes n'y connaissaient pas auprès de sa maîtresse les mêmes nuits tumultueuses. Ces 5 jours qui venaient de s'écouler, sans qu'il eût reçu aucune nouvelle, alors que les soirées se fussent si bien prêtées à rencontre, n'autorisait-il pas tous les doutes? Une porte s'ouvrit et une chambrière invita Philippe à le suivre. Il était décidé cette fois à ne pas s'en laisser compter. Il traversa plusieurs salles, puis la chambrière s'effaça. Et Philippe entra dans une pièce basse, encombrée de meubles et où flottait un entêtant parfum qu'il connaissait bien, une essence de jasmin que les marchands recevaient d'Orient. Il fallut un instant à Philippe pour s'habituer à la pénombre et à la chaleur. Un grand feu aux braises épaisses ardait dans la cheminée de pierre. « Madame, » dit-il. Une voix vint du fond de la pièce, une voix un peu rauque, comme endormie. « Approchez, messire. » Marguerite osait-elle le recevoir dans sa chambre, sans témoin? Philippe d'Aunay fut bien vite tranquillisé et déçu. La reine de Navarre n'était pas seule. À demi cachée par la courtine du lit, une dame de parage, le menton et les cheveux emprisonnés dans la guimpe blanche des veuves, brodait. Marguerite, pour sa part, était allongée sur le lit, dans une robe de maison doublée de fourrure, d'où sortaient ses pieds nus, petits et potelés. Recevoir un homme en pareille tenue et pareille posture était en soi une audace. Philippe s'avança et prit un tour de cour que démentait l'expression de son visage pour dire que la comtesse de Poitiers l'envoyait prendre nouvelles de la reine de Navarre, lui porter compliment et lui remettre un présent. Marguerite écouta sans bouger ni tourner les yeux. Elle était petite, de cheveux noirs, de teint ambré. On disait qu'elle avait le plus beau corps du monde et qu'elle n'était pas la dernière à le faire savoir. Philippe regardait cette bouche ronde, sensuelle, ce menton court, partagé d'une fossette, cette gorge charnue qui soulevait l'échancrure de la robe, ce bras replié et haut découvert par la large emmanchure. Philippe se demandait si Marguerite était entièrement nue sous la fourrure.